verrai si vous. Je vais en dire quelques mots.
Mais Irène, vous êtes aussi dans l'équipe fondatrice de Communio aussi, non ?
Fondatrice, non, tout à fait, mais originelle.
Très... Oui. Oh, voilà, originelle. Donc ça, c'est déjà du galon, ça. Hein. Parce que quand, c'est pas n'importe qui est au comité de rédaction de Communio. Hein. C'est vraiment un peu l'aboutissement d'une carrière. On est très heureux de vous accueillir, Irène. Merci
beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je me dis que ça me rajeunit, enfin du moins j'espère. Bon, écoutez, j'espère que vous n'allez pas vous endormir. Non. Je suis obligée de vous parler assise parce que je ne peux pas rester debout très très longtemps. J'espère qu'il n'y a pas de catastrophe. Alors, quand on m'a demandé de... Allez, j'ai aussi un problème d'yeux, donc il faut que je change de lunettes. On m'a demandé de parler de... l'image dans l'éducation selon C.S. Lewis. Ça n'a pas l'air folichon comme programme. Hein.
Mais... C'est vrai. C'est
mais je crois qu'on peut... Il y a quand même des choses à dire à ce sujet. Alors je vais commencer par une citation de Lewis. J'espère... Est-ce qu'il faut que je dise un mot de C.S. Lewis ou pas ?
Oui.
Vous me dites... Alors C.S. Lewis était un universitaire anglais, un de ses professeurs d'Oxford, comme on n'en fait pratiquement plus, qui est né en 1898 et qui est mort en 1963, le jour où Kennedy est mort d'ailleurs, oui, et qui a fait toute sa carrière, toute une carrière universitaire, il n'a pratiquement jamais sorti d'Oxford, sauf pour aller dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Et sa spécialité était la littérature médiévale et renaissante. Et il a écrit beaucoup de choses. C'était d'une part un remarquable critique et historien littéraire qui fait toujours autorité aujourd'hui, alors que, vous savez, il n'y a rien qui vieillit plus que les trucs de critique littéraire, etc. Alors ça, c'est devenu pratiquement des classiques. Ensuite, c'est un conteur. Je crois que beaucoup de gens ont entendu parler des chroniques de Narnia. Vous avez peut-être lu aussi, qui ont été écrites pour des enfants, mais ça peut se lire. Avant, on disait de 7 à 77 ans. Maintenant, je dirais plutôt de 9 à 99 ans. Et ça peut se lire à tout âge. D'ailleurs, Lewis avait comme principe qu'un livre qui ne peut être lu que pendant l'enfance ne peut pas être un bon livre. Au fond, même les tout petits livres d'enfants, même les petits livres de Jeannot Lapin, vous savez, de Beatrix Potter, ça peut se lire. Ensuite, donc, il a écrit des contes, des romans de science-fiction, un très très beau livre que je vous recommande, qui a été traduit, qui s'appelle Tell We Have Faces. Ça a été traduit sous le titre Un visage pour l'éternité. C'est le mythe de Psyché revu de façon assez extraordinaire. Il a écrit aussi des sortes de livres de théologie fiction, comme la fameuse Tactique du diable, et quelques autres aussi, Le grand divorce entre. Et en fait, entre le ciel et l'enfer. Et enfin, il a écrit des livres carrément et directement de défense et de présentation du christianisme. Et avec tout ça, ça fait une œuvre remarquable et unifiée par la puissance de l'imagination de l'auteur, qui dit lui-même, l'homme imaginatif, the imagination man, est plus fondamental en moi que tous les autres. Et ça lui permettait... que vous verrez, je crois, il a un sens extraordinaire de la vision. Bon. Alors, il a écrit un petit livre qui ne paye pas de mine, mais qui est très recommandable et qui vient d'être réédité par Grégory Solari, aux éditions Ad Solem, qui s'appelle « L'abolition de l'homme ». Alors là, c'est un livre vraiment, c'est pas un livre ni de théologie, ni de fiction, ni de rien du tout, c'est une réflexion sur l'universalité de la valeur et l'unité de l'être humain, et c'est très très recommandable. Et il part là-dedans, il part justement de problèmes d'éducation. Et il part de quelque chose qui n'a pas l'air très folichon non plus, de manuel scolaire, et il fait une critique de manuel. Je ne sais pas, je connais certains d'entre vous ont peut-être vu, ça se faisait beaucoup à une époque, la critique du manuel scolaire. Et à cette occasion, il dit ceci, la tâche de l'éducation moderne n'est pas de défricher des jungles, mais d'irriguer des déserts. Vous voyez, l'utilisation d'images, tout de suite. Alors, est-ce que c'est toujours vrai quand il parle de l'éducateur moderne, il disait ça il y a environ trois quarts de siècle. Et d'abord, je vais situer ce propos dans son contexte. Le problème de l'abolition de l'homme, c'est comment donner une éducation qui fasse de chaque personne un être humain, au sens plein du terme, c'est-à-dire, selon lui, qui ait des réactions justes vis-à-vis du monde et d'autrui, ce qui, théoriquement, du moins, fait qu'on a des actions justes. Ou, si vous préférez dire ça plus simplement, comment donner une formation morale sérieuse ? Alors, il est évident qu'une formation morale, ça ne consiste pas à faire une liste de règlements, dire voilà, il faut faire ci, ci, ci et ça, et pas faire ci, ci et ça. Bon. Selon Lewis, qui reprend d'ailleurs une idée que vous trouvez déjà dans Platon, donc c'est quand même pas absolument moderne, il faut, pour donner une formation morale, il faut donner une formation de la sensibilité. Parce que même, d'après lui, je crois qu'il n'a pas tort, même si vous avez des idées très justes, si votre sensibilité est tordue, je ne parle même pas de perversité ou de choses comme ça, mais si vous ne réagissez pas comme il faut vis-à-vis des êtres, des gens, des animaux, etc., ça vous sera difficile d'avoir vraiment une vie morale, parce qu'il y aura toujours un décalage entre vos idées, même excellentes, et puis votre pratique. Déjà, c'est déjà assez difficile pour tout le monde. Et il pensait déjà à son époque que c'était particulièrement important parce que on vivait une époque où toutes les émotions sont mises sur le même plan, ont une égale valeur, et donc il n'y a aucune raison d'en préférer une à une autre. Alors pour donner cette formation, il fallait aussi, toujours selon Lewis, une médiation de l'imagination. C'est là qu'on arrive aux images dans l'éducation. Parce qu'il faut donner des images parlantes qui rendent la loi morale, attrayante. Vous savez, il aimait beaucoup le psaume 110, je crois, où on parle tout le temps, c'est très long, c'est le plus long des psaumes, où on parle de l'amour de la loi. Et on dit que la loi est plus douce que le miel et toutes sortes de choses de ce genre. C'est pas l'idée de loi ne suggère pas immédiatement la douceur du miel ou du chocolat. Pour le psaume, c'est le cas. Et pour Lewis, il faudrait que la loi morale soit vraiment attrayante, plaisante. Il reprend un mot qui est en racine, mais au sens du XVIIe siècle, aux charmantes lois. Dans un des chœurs d'Athalie, et charmant ne veut pas dire évidemment charming, ça veut dire qui charme. Alors, il faut donc se débrouiller pour donner des images vraiment qui aillent dans ce sens. C'est un peu, si vous voulez, comme lorsque François d'Assise a inventé la crèche, il a manifesté l'idée d'incarnation de façon extrêmement parlante et touchante même. Donc il nous faut des images pour notre fameuse éducation. Alors on va vous nous dire, mais les images, c'est vraiment pas ce qui manque aujourd'hui. Hein, parce qu'on vit, et alors ça, en un sens, ça a changé, peut-être en pire, enfin en tout cas ça a changé depuis l'époque de Lewis, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'images. Il y a un véritable bain, parce que Lewis, évidemment, écrit avant le web, avant Internet, avant ce qu'on appelle le web des images. Vous savez qu'il y a des milliards de photos, au sens propre du terme milliards, il y a des milliards de photos. Et comment se débrouiller avec tout ça, il n'y a pas seulement il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des selfies, ça il y en a alors de plus en plus. Et même quand on écrit une lettre, on met un emoji à la place parce qu'on ne sait pas quoi faire. Pas toujours faire une phrase. Le smartphone a mis, si je puis dire, pas le point final, parce qu'on ne sait jamais ce qui va être inventé, mais un point extraordinaire, parce que pour moi, j'ai rien contre, mais c'est un instrument à ne pas voir. Parce qu'on prend des photos, on prend des photos de soi. Ce que je trouve le plus extraordinaire, et que j'ai vu moi-même, c'est la visite des musées avec smartphone. Et alors, on passe, on a des photos, mais on n'a même pas regardé les tableaux. Le pire, enfin le pire, le plus drôle, c'est les gens qui font des selfies avec la Joconde. Ou avec, enfin, des choses très célèbres, comme ça, enfin. Mais c'est vraiment un instrument de ne pas voir. Alors écoutez, je ne voudrais pas que vous me preniez pour... C'est vrai que je suis un vieux crouton, mais je ne suis pas un vieux crouton anti-techno. Je suis plutôt technophile. J'aime beaucoup les images, j'aime le cinéma, la BD, et même les romans graphiques, et même les jeux vidéo. Donc je ne parle pas là d'un point de vue où je trouve que c'est... Mais il faut quand même savoir raison garder, si vous voulez, quand on se sert de tout ça. Et je pense qu'il faut voir que la profusion des images anéantit notre possibilité d'attention à ces images et à leur sens éventuel. Alors ceci est bien résumé par ce que je voulais vous montrer, mais je pense que vous pouvez le voir. Ceci est la une du supplément littéraire du Times, une des meilleures revues de compte-rendu de critique du monde, je crois. Voici ce qu'ils avaient mis comme une. Le 16 décembre. Vous voyez ? Mais en fait, il le mettait évidemment dans une intention critique, mais ce qui est remarquable, c'est que là, Joseph, il s'intéresse à Joseph, mais pas au bébé. Parlons pas de la Sainte Vierge qui est transformée en je ne sais pas trop quoi, mais c'est tellement vrai, c'est qu'à force de se regarder soi-même à travers le téléphone, on ne voit plus même ce qu'il occupe. Bon, alors ça, je pense qu'on pourrait appliquer ça à beaucoup de sujets. Et alors, ce qui est inquiétant, c'est que ce flot d'images, y compris d'images égocentriques, il faut bien le dire, ça stérilise l'imagination. Parce qu'on a dit que l'imagination était nécessaire pour l'éducation, mais l'imagination, ce n'est pas simplement une quantité d'images, surtout pas des images qui vous sont infligées. Alors, il y a un témoignage très intéressant d'un homme, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a quelqu'un qui a inventé le jeu vidéo. À travers, en fait, il a inventé d'abord le jeu de rôle. Il y en a qui connaissent peut-être ou qui savent ce que c'est que Donjons et Dragons. Et qui était un jeu de rôle qui se jouait avec du papier, et une sorte de maître de jeu, etc. Et un groupe de gens qui jouaient à ça, etc. Et puis, naturellement, au bout d'un certain temps, ça a été mis, ça a été informatisé, et on fait des jeux de rôle, ça s'est développé, ça a donné le jeu vidéo, etc. Le fondateur de la chose en question s'appelait, ça se prononce Gygax, mais en fait, on va l'appeler Gygax, hein, G-Y-G-A-X, et il dit ceci, Gygax. Qui est mort, donc c'est un homme qui est mort il y a une dizaine d'années à peu près. Alors il pensait, lui, ça ne lui plaisait pas du tout le passage du jeu de rôle, du papier à l'ordinateur. Et pourquoi ? Parce que d'après lui, ça affaiblissait ce qu'il considérait comme une des facultés principales de l'humanité, savoir l'imagination. Et alors il dit à ce sujet une chose absolument magnifique. Il dit qu'il a entendu des enfants discuter entre eux pour savoir s'ils préféraient la télévision ou la radio. Et alors, il y a un petit garçon qui disait « Moi, je préfère la radio, etc. » Alors, Gygax lui a demandé « Mais pourquoi tu préfères la radio ?» Il a répondu « Parce que les images y sont bien plus belles. » C'est une réponse absolument géniale. Hein, je ne sais pas d'ailleurs si on serait capable, enfin moi, je ne sais pas si je serais capable de dire ça. Mais pourquoi les images sont bien plus belles à la radio où on ne voit pas d'images ? Parce que justement, l'imagination de chacun est libre. Tandis que quand on vous donne des images, même magnifiques, même superbes, vous êtes contraint par ces images. Et votre imagination ne fonctionne pas, c'est autre chose. Vous pouvez avoir une appréciation esthétique ou autre. Mais... Et d'ailleurs, pensez par exemple, si vous aimez beaucoup un livre et que vous voyez l'adaptation de ce livre au cinéma. Sauf exception, parce que je ne peux pas faire des lois générales là-dessus, mais souvent, on est déçu. Pourquoi on est déçu ? Parce que ça vous donne une image de ce film ou de ce récit qui n'est pas en fait la vôtre, qui n'est pas libre. Et en particulier quand il s'agit alors actuellement d'œuvres plus ou moins féeriques ou fantastiques, on se rapproche du type d'œuvre écrite et valorisée par Lewis justement, c'est qu'on y va à coup d'effets spéciaux. Alors il y a des effets spéciaux absolument fabuleux, seulement il n'y a plus que ça pratiquement. Vous pouvez regarder ça, vous dites, oh là, c'est vraiment formidable, comment il a fait ça. Mais ce qui est visé, pour être pompeux, l'intentionnalité de la chose a disparu. Je vous donner un exemple, parce que moi, ça me... Mais enfin, il y en a, vous pourrez certainement en fournir des tas. Dans les chroniques de Narnia, donc, qui sont une série de contes pour enfants écrits par Lewis, qui se passent dans un univers parallèle, enfin, qui s'appelle Narnia. Il y a 7 contes. Il y a le second, qui s'appelle Le Prince Caspien. On en a fait un film. Et dans ce second opus, les enfants, ou les jeunes gens, enfin, qui sont... Parce que quand ils arrivent à Narnia, ils deviennent plus âgés qu'ils ne sont dans la réalité. Ils ont plus de responsabilités, etc. Mais dans le second, donc c'est les enfants se retrouvent à Narnia après un millénaire environ. La dernière fois qu'ils sont venus, c'était il y a 1000 ans, alors que dans leur vie à eux, il y a juste un an qui s'est passé, vous voyez. Mais ça, c'est un truc classique dans les choses fantastiques. Le temps n'est pas le même dans les différents univers. Et alors, ils vont se retrouver, ils vont retrouver la figure lumineuse de Narnia, qui est un lion, qui s'appelle Aslan. Il paraît, m'avait-on dit, que ça veut dire lion en turc. Aslan est en fait une figure lumineuse, c'est une figure christique. Et c'est absolument extraordinaire, et je ne peux que vous conseiller de lire les chroniques de Narnia. Donc, il y a une jeune femme, une jeune fille, Lucie, qui est celle qui sent le mieux les choses. Il y a une scène où elle se promène la nuit dans une forêt. Aslan approche, tout le monde le sent, et en particulier les arbres le sentent. Et les arbres se mettent à danser. C'est une image extraordinaire, mais si vous réfléchissez un peu, ou si vous connaissez les psaumes, il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 96, en tout cas, c'est un psaume qu'on lit pendant l'Avent, parce que dans ce psaume, on dit « Car il vient pour juger la terre, et les arbres, et toute la nature se réjouit, etc. » Alors les arbres se mettent à danser, alors c'est donc une image, ça doit être une image lumineuse, et en fait, dans le film, c'est absolument insignifiant. On fait un petit bruissement, et rien ne se passe. Vous voyez, vous avez de jolies images, mais on se demande bien pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement. Enfin, évidemment, c'est pas facile de rendre ça. Parce que, imaginez que vous deviez rendre en image l'approche de Dieu, finalement, ou l'approche du Christ, comment vous feriez? Je ne ferais peut-être pas mieux que l'auteur du film. Mais en tout cas, le film est nécessairement décevant sur ce plan. Et en fait, il y a une sorte d'objectivation dans le fait de présenter une image qui bloque toute imagination. Vous voyez. Alors, il vaut mieux lire le psaume, hein. Ceci dit, je voudrais quand même relativiser, je ne veux pas être trop catégorique, parce que finalement, il y a des gens, beaucoup de gens n'ont accès à Narnia, ou à Tolkien d'ailleurs, que par le film, à travers les films. Ça leur donne éventuellement envie de lire les bouquins. Une fois, j'ai eu, ça c'est une anecdote personnelle, mais une fois j'avais chez moi un plombier, une corporation des plus importantes, et ce plombier devait me faire un devis. Bon, alors, on s'est assis devant ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, il y a entre autres un gros Narnia. Il y a un gros titre, ça se voit. Quoi, si vous voulez. Et alors, au bout d'un moment, je vois que le plombier était rêveur. Il m'étonnait un peu. Il me dit, voilà Narnia. Il m'a dit, j'ai vu le film. Je voudrais lire le livre. Alors, ça, c'est très remarquable et c'est très juste. Vous voyez. Alors, finalement, même un film... que vous, parce que vous aimez déjà le livre, trouvez éventuellement qui est insuffisant, il peut donner envie, il peut toucher quelque chose. On ne sait pas ce qui touche finalement l'imagination. Mais enfin, Ça n'empêche pas que, en général, il faille, et c'est là, je transforme un peu le propos de Lewis par lequel j'ai commencé. Il dit, on ne doit pas défricher des jungles, on doit irriguer des déserts. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on doit d'abord défricher des jungles, et peut-être on arrive au sol, à ce moment-là, on pourra peut-être irriguer. Encore, il faut se méfier. Moi, j'ai vécu dans un pays où, quand on défrichait trop, le sol était lavé par la pluie très très rapidement et ça se transformait en latérite. Vous savez ce que c'est, la latérite? C'est quelque chose, une espèce de... C'est comme de la brique. Alors, il ne pousse pas grand-chose dessus. Mais enfin, bon, il faut donc défricher, c'est-à-dire enlever, écarter les images pour essayer d'accéder à l'imagination. Et pour nourrir l'imagination. Alors vous allez me dire, ça c'est la partie embêtante de l'exposé, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que qu'est-ce que c'est quoi l'imagination? Alors, comme le disait Gygax, employait un vocabulaire ancien, qui est souvent employé encore, il disait que c'est une des principales facultés de l'esprit. Et nous, nous n'aimons pas parler de facultés distinctes, effectivement. Disons, moi je dirais plutôt, c'est un des principaux aspects de l'activité de l'esprit. Alors ce n'est pas la rêverie, c'est pas la complaisance dans les images, c'est pas l'égocentrisme selfique, c'est pas tout ça. C'est essentiellement, et ça je crois que Lewis est important, au-delà justement de son œuvre, de ses contes, etc., pour vous rappeler ça, l'imagination c'est une capacité de vision. C'est peut-être la capacité de vision. Et par vision, ça veut dire que l'imaginaire n'est pas une sorte de domaine à part, mais qui fait partie de l'activité mentale en général. Et pour Lewis, il relève l'imaginaire en question de ce qu'il dit dans une formule tout à fait saisissante, l'imagination en plein éveil d'un esprit rationnel. Vous voyez, ça c'est très important parce qu'il met dans le même, et la raison, je crois, l'imagination de la raison, d'un être rationnel. The fully awakened imagination of a logical mind. Alors, vous savez que Sartre disait que l'imagination, c'est une faculté de l'irréel. C'est ce qui nous permet d'imaginer des centaures et des machins comme ça. Mais pour Lewis et pour d'autres, c'est pas du tout une faculté de l'irréel, c'est une faculté du réel. Et plus exactement, c'est une capacité de réalisation. Vous savez que le français n'avait pas de verbe pour dire réaliser. Et en fait, on l'a emprunté à l'anglais, et je crois que là, on a une raison de l'emprunter et qu'il faut le garder. Alors, l'imagination nous sert à percevoir les autres. D'abord, parce que c'est ce qui nous permet d'imaginer ou de réaliser ce que signifie une situation qu'ils vivent. Alors ça, c'est très important, on pourrait le développer longtemps, tu vois. Il y a un rôle de l'imagination réalisatrice dans la vie morale, parce que si je ne saisis pas ce que l'autre peut peut-être éprouver, je ne suis pas capable même de lui parler ou de lui venir, de le secourir, ou etc. Alors il y a un premier niveau où l'imagination nous permet de vraiment réaliser ce qui est en question dans ce que nous disons. Et là, il y a quelqu'un qui est très important à ce sujet, qui est Newman, le cardinal Newman, le grand théologien, récemment béatifié, comme vous savez, et qui, j'espère, sera canonisé un jour, parce qu'il ne faut pas pourquoi on ne canoniserait pas les gens intelligents. Newman a beaucoup réfléchi à ce qu'il appelait l'assentiment. Il a écrit un livre très connu qui s'appelle « La grammaire de l'assentiment », qui est assez... C'est pas un philosophe, mais il va beaucoup plus loin que certains philosophes, vous voyez. Et alors, il oppose, étant donné une proposition quelconque, ce qu'il appelle l'assentiment notionnel. On est d'accord, on pense que c'est juste cette proposition, mais ça nous fait ni chaud ni froid. L'assentiment réel, où vraiment on réalise ce qui est en question. Donc, il prenait par exemple comme l'idée de... qui était de son époque, donc c'est un homme du 19e siècle, du plein 19e siècle, il est né, je crois, le jour de la bataille de Trafalgar ou quelque chose comme ça, et il est mort dans la fin du siècle. vieux et chargé d'honneur, eh bien, il y avait donc un problème qui était encore, enfin, celui de l'esclavage. Il y a donc des gens qui étaient opposés à l'esclavage, d'ailleurs par principe, mais ils faisaient rien pour ni contre, hein, parce que leur assentiment était purement notionnel. L'esclavage, c'est pas bien, enfin, pour résumer. Mais quand vous réalisez, si vous réalisez ce que c'était qu'être esclave, là, ça vous mettait en marche, vous commencez à vous faire bouger. Et alors, il applique ça, Newman, à la lecture de l'écriture, c'est-à-dire à la connaissance, enfin, que nous avons des événements de ce qu'on appelait l'histoire sainte autrefois, vous voyez. Et il dit ceci: il faut méditer les textes de l'écriture pour rendre les faits qu'ils rapportent présents à notre esprit, de manière à ce qu'ils puissent être saisis par une foi aussi vivante que l'imagination qui les perçoit. Ça, c'est très fort, vous voyez, pour lui, l'imagination. Par exemple, mettons, j'ai pris l'exemple de la crèche avec François d'Assise, c'est pas simplement une jolie image, ça permet, si l'imagination la saisit vraiment, eh bien, il faut que la foi suive, si vous voulez. Remarquez, c'est encore plus compliqué que ce que dit Newman, parce que Newman n'avait pas pensé, enfin, je crois pas, au fait qu'on peut mentir par l'image. On peut vous faire réaliser des choses qui ne sont pas vraies. On peut vous exciter, alors ça se fait beaucoup malheureusement sur le web justement, on peut vous exciter en vous proposant comme des réalités des choses qui ne le sont pas. Autrement dit, dans l'éducation de l'imagination, il faudrait toute une partie d'hygiène critique. Vous voyez, c'est assez difficile parce que si on critique, par définition, on se met à distance. Et si on se met à distance, on ne peut plus entrer dans la réalité comme... Enfin, c'est une question d'équilibre, de justesse, c'est difficile, etc. Mais dans un second niveau, et là, Louis, c'est encore à mon avis plus intéressant, parce que l'idée de réaliser ce qui est en question, tout le monde comprend que l'imagination peut jouer un rôle et que c'est important, mais pour Louis et pour d'autres, l'imagination est la perception de la qualité des choses. Et donc, quelque chose d'essentiel dans notre relation au monde. Or, cette perception, pour lui, s'exprime essentiellement par la poésie, dans la poésie, dans les mythes, dans les contes, les féeriques. Le père Bouillet, qui était un bon théologien, disait qu'il aimait beaucoup Tolkien, le premier qui a lu Tolkien en France. Au lieu de contes de fées ou de littérature fantastique, il voulait parler de littérature féerique. Et ça je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, cette perception de la qualité s'exprime aussi dans les récits féeriques, qui nous permettent d'ôter le voile de la familiarité qui nous cache la réalité des choses. Le voile de la familiarité est une formule du poète anglais Shelley, un des grands poètes romantiques anglais, qui définit la poésie comme justement ce qui enlève ce voile. Et alors, aussi bien Tolkien que Lewis ont repris cette formule. Par exemple, Tolkien, je ne sais pas si vous avez lu certains, connaissez sûrement Tolkien, mais il a écrit, entre autres, c'était un petit essai très très important sur le conte de fées, qui a été traduit et qui est excellent d'ailleurs. Et dans cet essai sur le conte de fées, il commence par dire que ça n'a rien à voir avec une littérature pour enfants, etc. Il dit aussi, on y voit les choses comme elles sont. Je ne dis pas ça exactement pour me faire passer pour un philosophe, dit-il. Mais pour voir, peut-être plutôt pour voir les choses comme nous sommes censés les voir, comme des choses distinctes de nous-mêmes qui ont une consistance, une existence. Il applique ça aux choses et aussi aux animaux, par exemple. Des choses libérées, dit-il, de la triste banalité de la familiarité. Et alors, Lewis écrit dans un de ses articles: la valeur du mythe est de prendre les choses que nous connaissons et de leur rendre la richesse de signification que nous cache le voile de la familiarité, en mettant le pain, l'or, le cheval, la pomme, ça c'est l'exemple, et même les routes, les chemins, dans un mythe, nous ne nous éloignons pas de la réalité, nous la redécouvrons. Et une formule qui, je trouve, est très juste, est capable d'une grande clarté, Louis, ce qui est une grande qualité. L'histoire mythique ou féerique n'est peut-être pas réaliste au sens superficiel du terme, évidemment, puisque c'est plein d'êtres qui n'existent pas tels quels dans la nature. Elle n'est peut-être pas réaliste au sens superficiel du terme, mais elle nous donne une image de ce que la réalité est peut-être en une région plus centrale. Donc, à travers le mythe, etc., on revient aux choses. Alors, je ne vais pas donner dans ce que Tolkien vient de dire qu'il ne voulait pas faire, mais enfin, ça fait tout de suite penser le retour aux choses, à la phénoménologie, à même aussi à certains aspects de la philosophie de Bergson. Alors, il ne s'agit pas d'écraser les contes sur des grosses références philosophiques, mais enfin, il ne faut pas oublier que l'activité imaginative et narrative fait partie de la manière dont nous faisons sens du monde. Donc il y a une continuité avec la philosophie, il n'y a pas de raison de la refuser. Alors il s'ensuit un paradoxe, c'est que mieux on voit les choses, et plus on voit qu'elles sont insuffisantes, plutôt qu'elles ne se suffisent pas elles-mêmes, si vous voulez. Mieux on voit, si vous préférez, que le monde est étrange, même le monde que nous connaissons, qui nous paraît aller de soi, mais quand on prend un peu de distance, à travers en particulier des récits mythiques, on se dit, mais comment est-ce que ça peut être comme ça? Les choses sont plus que ce qu'elles sont. Elles nous font signe. Les contes et la littérature féerique nous suggèrent de faire attention à ça. Et de dépasser ce que Loé s'appelle le point de vue étroit et désespérément pratique de la vie dite réelle. Ou encore de sortir des ornières où nous confinent nos sens et nos préoccupations biologiques, sociale et économique. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les avoir, évidemment, mais si on voit le monde qu'à travers ça, il y a des quantités de choses qui nous échappent. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Sylvain Tesson qui parle de sa cabane en Sibérie. C'est un très joli livre, et c'est un garçon qui est allé s'installer dans une cabane en Sibérie pour plusieurs mois. Il avait emporté Tolkien, d'ailleurs, et beaucoup de vodka, je veux dire. Mais il a écrit un petit compte-rendu de ça qui est très bien. Il parle aussi de ces ornières de la réalité. Lui, il voulait trouver un moyen de prendre de la distance. Bon, il s'agit d'échapper, ça c'est des textes pour parler comme Tolkien, au cercle de fer du quotidien. Lewis dit, ça nous fait peut-être deviner qu'il y a une brèche dans ce qu'il appelle les murs impitoyables du monde. Vous voyez ? Enfin, en ce sens, l'imagination est une faculté non pas de l'irréel, mais du surréel. Alors attention, je ne donne pas, je ne pense pas qu'il faille donner de portée proprement religieuse à l'imagination. Sans ça, alors on devient gnostique, on peut imaginer des tas de choses. Mais l'imagination, si elle est vraiment éveillée, ça nous permet d'éblayer tous les obstacles qu'un monde positiviste met finalement à notre façon d'appréhender la réalité. D'où il est indispensable, je pense, d'initier les jeunes, comme on dit, aux textes qui nourrissent cette imagination. Alors là, bon, il y a tout un programme, on peut partir des textes les plus anciens, je ne sais pas, en Gilgamesh, par une épopée de Gilgamesh, je crois que c'est ce qu'il y a de plus vieux chez nous, Virgile, Homère, la Bhagavad Gita, Le voyage en Occident, enfin, c'est un conte chinois de l'époque Ming, c'est-à-dire extrêmement... Tout ça, faire lire tout ça, ça ouvre non seulement des perspectives sur d'autres moments de la culture ou d'autres cultures, mais aussi, surtout, sur une réalité qui n'est peut-être pas réductible à ce que je vois, ce que je touche. On part des plus anciens, mais on prend aussi les plus modernes, jusqu'à Kafka, Chesterton, est-ce que vous connaissez Chesterton? J'espère, parce que... Et puis, évidemment, Tolkien, Lewis, etc. Toutes ces lectures, si on les fait bien, ça facilite l'émerveillement devant la réalité. Vous savez que l'émerveillement est le commencement de la philosophie. Vous savez, on cite très très souvent le passage d'Aristote, où il dit que l'étonnement, qu'on traduit souvent par étonnement, est le commencement de la philosophie. Pour ceux qui ont envie d'avoir les références, c'est dans la Métaphysique, livre Alpha, 982b, 11 et suivant. Aristote dit que c'est l'étonnement qui a poussé les premiers philosophes à s'interroger sur le monde. Mais alors il ajoute quelque chose qu'on cite beaucoup moins souvent. Il ajoute « c'est pourquoi aimer les mythes, être philomythos, comme il dit, aimer les mythes, c'est être en quelque façon philosophe. Car, dit-il, le mythe est composé de merveilleux. » Ça, c'est la traduction habituelle de Tricot. Mais on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le fait que le mythe est composé de merveilleux, en quoi ça rend le fait de les aimer, ça rend plus philosophe, oui. Mais, en fait, c'est pas bien traduit, et on comprend mieux que le mythe est composé, enfin, raconte de choses merveilleuses, ectomation, et il est capable de faire naître l'émerveillement, le tomatzein, c'est le même verbe, vous voyez. Et si on traduit « c'est merveilleux, ça fait naître l'étonnement », on a complètement raté la chose. D'ailleurs, il paraît qu'une phrase, un mot attribué à Aristote, « plus je deviens vieux, plus j'aime les mythes ». Peut-être qu'il devenait de plus en plus philosophe. Donc, il me semble qu'il faut donner un type, ce type, enfin, insérer ça dans l'éducation, parce que c'est comme ça qu'on déclenchera l'imagination. C'est pas en exhortant les gens, ni en leur donnant des images, mais en leur donnant ce qui nourrit l'imagination. On ne sait pas comment les gens réagiront, mais peu importe, l'important c'est de donner la possibilité de le faire. En particulier contre une éducation purement positiviste qui bannit tout merveilleux, tout conte de fées, qui dit qu'il faut donner des faits, comme si, d'ailleurs, en disant c'est une éducation scientifique, comme si une science était un empilement de faits. Vous savez. Alors je vais donner ce type d'éducation, vous allez, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé notre pédagogie, en particulier depuis le XVIIIe siècle. Je vais vous donner deux exemples. Il y en a un qui m'amuse beaucoup, c'est une dame qui s'appelait Madame de Genlis, ça s'écrit G-E-N-L-I-S, qui a été la préceptrice de Louis-Philippe, et qui était une éducatrice et qui a écrit. Alors c'est intéressant, c'est secondaire comme littérature, mais c'est souvent plus important. C'est des gens qui ont eu beaucoup plus d'influence, même que des chefs-d'œuvre, vous voyez, qui ont été beaucoup moins lus. Alors même de Genlis a écrit entre autres un livre qui s'appelle Les Veillées du Château. Vous savez, il y avait les Veillées des Chaumières, elle, c'était les Veillées du Château, pour les gens de bonne famille. Et alors, il y a un passage extraordinaire où elle enlève des contes. Elle prouve que ces petites élèves sont en train de lire des contes de Madame d'Aulnoy, d'ailleurs, qui était une bonne conteuse. Elle leur retire en leur disant « C'est bon pour les domestiques, vous, mesdemoiselles, vous devez connaître des fées. » Alors, elle remplace les contes de fées par une suite de fées scientifiques. Enfin, ou supposait-elle, je ne sais pas, disons, la nature de l'arc-en-ciel ou des choses comme ça. Il faut du merveilleux scientifique et surtout pas de contes de fées. Alors, vous allez me dire, bon, ça, c'est bon, le XVIIIe siècle, et cette dame, etc. Mais à notre époque, nous avons quelque chose qui a eu beaucoup de succès, en tout cas en Angleterre, qui a été traduit, qui est l'œuvre d'un nommé Dawkins. Je ne sais pas si vous connaissez. D-A-W-K-I-N-S. C'est l'athée de service. Il a écrit l'illusion de Dieu. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et il est vraiment... il a écrit un livre qui s'appelle La magie de la réalité. Comment nous savons ce qui est vraiment vrai. Alors, c'est un livre qui contre le conte, contre le mythe, et surtout d'ailleurs contre, bien dire, la Bible, parce que c'est vraiment une chose de combat. Mais alors il faut justement expliquer qu'une fois qu'on sait que l'arc-en-ciel n'est pas quelque chose que Dieu a mis dans le ciel après l'arche de Noé, quand on sait aussi que ce n'est pas l'écharpe d'Iris comme dans la mythologie grecque, eh bien on est vraiment dans la réalité. Et tout son bouquin est comme ça, ça fait tout à fait penser à Madame de Genlis, des faits merveilleux, D'ailleurs, entre nous, c'est le programme que Dickens critique dans un livre qui s'appelle Les temps difficiles, Hard Times. Au début de Hard Times, vous avez un personnage qui porte le nom de Gradgrind. Vous voyez, ça dit tout de suite à quel point il est sympathique. Gradgrind fonde des écoles, mais dans ces écoles, il faut enseigner aux enfants uniquement des faits. Facts, facts, facts. Et personne ne se demande jamais comment on définit un fait, d'ailleurs. C'est quoi un fait? Et il faut ceci. Ce que je veux, c'est des faits. Enseigner à ces garçons et à ces filles uniquement des faits. Les faits, on n'a besoin que de faits dans la vie. Ne planter rien d'autre, déraciner toute autre chose. Vous voyez le type d'éducation qui est suggéré. Vous pouvez. Alors, il y en a comme ça des pages, etc. Et Dickens, qui évidemment fait une caricature de cet homme, mais enfin, tout leur attaque, l'homme en question élève ses enfants selon ses principes et ça donne des catastrophes. Et il y a une image que j'ai trouvée en passant, en lisant un autre Dickens, qui n'est pas du tout consacré à l'éducation, qui s'appelle Bleak House, qui critique un système juridique, etc. Dans Bleak House, vous avez deux personnes, un frère et une sœur, qui sont des petits administrateurs minables, un tatillon, vous voyez, desséchés, méchants en fait, totalement dépourvus d'humanité. Et au passage, Dickens dit, ils n'avaient jamais entendu parler de contes de fées, et leur éducation, exactement, avait banni tout ce qui était récit d'aventure, contes de fées, fiction ou fable. Alors vous allez me... Ça, c'est... Évidemment, c'est des personnages caricaturaux, mais c'est quand même frappant de lire ce genre de description, d'autant plus que moi, ça m'a fait penser immédiatement à des recommandations tout à fait contemporaines. On recommandait en particulier dans les classes primaires, mais aussi ensuite, de ne faire lire que des récits réalistes. C'est-à-dire, il fallait que les enfants lisent des livres qui expriment ce qu'ils vivaient. Il fallait qu'ils rencontrent leur fameux vécu, autrement dit, c'est catastrophique la notion de vécu. Vous ne deviez lire que des choses qui vous racontaient votre vie sociale. Donc, en fait, ça n'a pas jamais vraiment pris, je crois. D'abord, il y a quand même un certain bon sens des éducateurs, des professeurs, puis il y a aussi un bon sens des enfants. Et en particulier, ça se voit au succès, par exemple, qu'a eu Harry Potter, qui était absolument imprévu, que souvent les éducateurs ont essayé de canaliser, etc. Est-ce que vous avez rencontré des gens, des familles, qui ne voulaient pas de Harry Potter pour leurs enfants?
Oui.
Parce que moi, j'en ai... Et ça m'a tout à fait étonnée. Quand on avait fait, dans Communio, un numéro sur foi et féerie, il y avait un article sur Harry Potter, évidemment. Et il y a une brave dame qui s'est désabonnée, disant c'est quand même scandaleux, dans une revue soi-disant catholique, enfin blablabla. Je pense que cette dame n'avait jamais ouvert Harry Potter. Parce que tout ce qu'elle avait vu, c'est qu'il était question de sorcellerie. Mais la sorcellerie de Harry Potter, ça n'a rien à voir avec l'occultisme ou les choses qu'on peut craindre, effectivement. Ça m'a frappé, vous savez que le premier Harry Potter s'appelait, dans le titre que lui avait donné l'auteur, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter et la pierre philosophale. Et alors, il y a des éditeurs américains en particulier qui ont dit philosophale, qu'est-ce que c'est donc ça? Et ils ont remplacé par Harry Potter et l'école des sorciers. Résultat, ça a été bien pire. Parce que vraiment, il y a des gens qui ont... Il y a eu des déchaînements incroyables. Alors que si on ne lit pas Harry Potter, on perd beaucoup, à mon avis. D'abord, on perd un grand plaisir de lecture. Et ensuite, on perd aussi la confrontation, en particulier justement les fameux jeunes, perdent une confrontation avec des idées qui sont, à ma connaissance, sont très rarement exprimées. En tout cas dans la littérature pédagogique, dans l'éducation, etc. Par exemple, un des thèmes, si je vous demandais, enfin, quel est un des thèmes fondamentaux, essentiels de Harry Potter, qui fait le fil du début jusqu'à la fin?
L'amour.
Comment?
L'amour. L'amour et l'amour.
Oui, mais il y a tout ça, effectivement, et vous avez dit la mort.
Non, le sacrifice.
C'est une, il y a une réflexion sur la mort depuis le début. Et il y a l'idée exprimée dans le premier et dans le dernier et entre les deux que la mort n'est pas la pire des choses. Oui. Est-ce que vous avez souvent entendu dire ça, même par nos vénérés ecclésiastiques? Oh. Non, mais franchement, et ce qui est très, c'est pas simplement une proposition, justement, que de temps en temps Dumbledore dit, etc. C'est vraiment, qu'est-ce qui fait le mal du sorcier, du méchant, du Voldemort? Pourquoi est-ce qu'il devient ce qu'il est? Parce qu'il n'est pas au début. Au début, c'est un étudiant comme les autres, si je puis dire.
Le plan de la mort.
Ben, il cherche la vie, je dirais, immortelle. Il voudrait échapper à la mort. Il fait tout pour ça, etc. Ça devient une obsession, ça devient... Et le résultat, et ça je trouve que Rowling le montre de façon extraordinaire, ça c'est précisément ce qui le détruit. Parce qu'à la fin, si vous vous rappelez, j'espère que vous avez tous lu Harry Potter, et que ne vous a pas empêché de le faire, comme j'ai vu dans les familles où c'était interdit. Eh bien, à la fin, Voldemort, dans l'extraordinaire scène qui se passe... soi-disant dans la gare de Charing Cross, vous savez, où Harry est entre deux mondes, finalement, il n'y a plus rien de Voldemort, c'est plus comme Locke, c'est vraiment une sorte d'anéantissement. Et plus il y a une confusion chez Voldemort entre vie immortelle et vie éternelle. Donc, pas du tout, c'est tout à fait normal de craindre la mort et de vouloir y échapper. Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Vous voyez, quel chemin prendre. D'ailleurs, Rowling a dit expressément qu'elle était chrétienne au moment. Ça ne peut être, bien qu'il n'y ait pas un mot de christianisme dans Harry Potter, enfin pas directement, même si on fête Noël, mais on ne sait pas trop pourquoi on fête Noël. Mais je trouve que c'est très très fort, si vous voulez. C'est justement ne pas faire lire des choses comme ça. C'est vraiment appauvrir aussi les enfants auxquels on interdit ce genre. Il y a une formule de Lewis dans un de ses articles qui dit « Parfois, le conte de fées est ce qui dit le mieux ce qui doit être dit. » Je crois que, par exemple, pour ce sujet-là, ça s'impose. Alors, une des tâches de l'éducateur moderne est bien d'initier les jeunes à cette littérature, d'indiquer l'entrée comme dans ce que Tolkien appelle le royaume périlleux. C'est périlleux parce que c'est périlleux pour une définition tronquée de la réalité, pour un certain confort, si vous voulez. Une complaisance dans le train-train des jours. En fait, éduquer. D'ailleurs, nous-mêmes, on a toujours besoin d'être éduqués, c'est même pas un truc qui est fini un beau jour. Hein. Mais c'est quand même préparé à la vie adulte. Et la vie adulte, il y a un côté qui n'est rarement dit aux gens qui vont y entrer, c'est que c'est très monotone, la vie adulte. Il y a un côté, forcément, il y a un côté, on a un métier, on a une famille, il y a une répétition, c'est inévitable. Et cette répétition peut être lourde à porter. Et en particulier, si justement on pense qu'il n'y a que ça, que la réalité c'est simplement toujours la même chose qui se répète, etc. Ceux qui vivent sans poésie, dit l'autre, c'est des gens qui sont vraiment extrêmement appauvris et qui ont plus de peine à supporter la vie, moi, il me semble. Alors, il faut initier, alors je vais finir bien, oui. Il faut initier, évidemment, de préférence avec des œuvres de qualité, mais on a vraiment le choix, hein, parce que depuis l'Odyssée, on a tout ce qu'on veut. Hein. Donc, choisir, bien faire lire, c'est une autre chose très importante. Mais je voudrais ajouter une chose que j'ai trouvée dans Tolkien et qui m'a paru très intéressante. C'est dans un conte qui est moins connu que Le Seigneur des Anneaux, un conte court d'ailleurs, qui s'appelle Smith, Smith comme Monsieur Smith, of Wootton Major. Wootton, ça s'écrit W-O-O-T-O-N, Major, et c'est le nom d'un village. Et c'est un village comme on trouve dans Agatha Christie, dans, je sais pas, c'est une série qui était pas mal, Barnaby, peut-être il y en a qui ont vu des Barnaby. Ça se passe toujours dans des villages. Et ça, c'est un type d'habitat, même bourgeois, je dirais, typique de l'Angleterre. Oui, parce que vous avez toujours de belles maisons, des gens qui ont des métiers qui en France, habiteraient tous Paris. Ben, bien sûr, en Angleterre, ils habitent souvent Londres, mais pas seulement, si vous voulez. Eh bien, Wootton Major est donc un de ces villages, et c'est un village qui est supposé être à la lisière du royaume des fées. Parce que Tolkien l'appelle comme ça, carrément, le royaume des fées. Fairyland. Et certaines personnes de ce village peuvent aller dans ce... Il y a une sorte de perméabilité de frontières, si vous voulez. Et Smith, le Smith en question, est un de ceux-là. Et alors, c'est une chose à lire. Et dans ce village, il y a une fête des enfants. Dans un temps, on fait un gros gâteau, un énorme gâteau. Et... il y a toute une histoire du pâtissier et du gâteau. Puis sur le gâteau, on met une petite figurine, comme celle qu'on mettait sur les gâteaux de mariage autrefois. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les gâteaux de première communion. Vous n'avez pas vu, ça ne doit plus se faire. Mais c'est tout à fait. C'est une petite figurine clinquante qui représente la reine des fées. Et alors Smith, qui connaît la vraie reine des fées et qui la rencontre à nouveau, il est tout honteux que dans son village, on puisse la représenter alors que c'est une personne. Qui n'a rien à voir avec la petite figurine clinquante. Alors, il exprime cette honte, etc. Et elle lui dit quelque chose de très intéressant. Elle lui dit, n'aie pas honte de tes concitoyens, parce que mieux vaut une petite poupée que l'oubli total du royaume de féerie. Better a little doll than no memory of fairy at all. Pour certains, dit-elle, ils n'auront juste un aperçu, un clin d'œil, et pour l'autre, ce sera un éveil. Moi, je pense ça souvent quand je vois les illuminations de Noël. Parce que le truc, il y avait un moment, il fallait dire quelle horreur, c'est commercial, c'est clinquant, c'est souvent de mauvais goût. Pas toujours, d'ailleurs. Mais imaginez qu'il n'y en ait pas du tout. Est-ce que ce serait mieux? Mieux vaut, je dis, des décorations même clinquantes qu'aucun souvenir de Noël, voyez. Alors pourquoi? Alors je résume et je finis. D'abord, il y a ce que Chesterton appelle dans un livre remarquable, qui s'appelle Orthodoxie, qu'on ne peut aussi que recommander. Il y a un chapitre qui s'appelle Essex of Elfland, la morale, l'éthique du pays des fées. Et justement, c'est saturé de moralité. Il y a toutes les vertus de base, si vous voulez, le courage, l'amitié, la fidélité aux promesses, enfin, etc. Deuxièmement, parce que seule la poésie peut nous arracher à la vulgarité positiviste. Je ne crois que ce que je vois, etc. Et nous faire deviner qu'on peut voir l'invisible ici et maintenant. Vous savez que pour des peintres comme Klee ou Kandinsky, la fonction de l'art était précisément de faire voir l'invisible. Il y a un très beau livre de Michel Henry, qui s'appelle d'ailleurs « Voir l'invisible ». Mais la littérature féerique, et ça je suis d'accord avec Louis, pensait que beaucoup de gens n'avaient pas ni l'intérêt, ni les moyens, ni la possibilité d'accéder vraiment à la poésie. D'ailleurs, qui est-ce qui lit de la poésie? Eh bien, en revanche, la littérature féerique, pour lui, était un accès... je dirais un substitut de la poésie. Ça ne me paraît pas faux, d'ailleurs. Alors, ça permet d'accéder, effectivement, une fois qu'on voit l'invisible, ou qu'on devine qu'il y a de l'invisible, vous voyez, toutes les choses sont possibles. Et au point de vue chrétien, alors, c'est très important. Je ne sais pas si vous connaissez un poète qui s'appelait... j'allais dire, c'est comme les Dupont dans la traduction anglaise... qui s'appelait Thompson, Francis Thompson. C'est T-H-O-P-S-O-N. Francis Thompson, qui n'était d'ailleurs pas un garçon recommandable, il fumait l'opium, il était plus ou moins SDF, enfin, mais c'est un très très grand poète. Et Francis Thompson a écrit un poème qui s'appelle « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Et sur le thème « Au monde invisible, nous te voyons, au monde intouchable, nous te touchons, au monde, etc. » C'est un poème magnifique. Et ça finit par... Il voit le, pourquoi il voit le, les en, l'échelle de Jacob située entre Charing Cross, vous voyez où c'est à Londres, hein, et le ciel. Et puis il voit aussi le Christ marcher sur les eaux, non pas de Génézareth, mais de la Tamise. Et pourquoi nous ne verrions pas le Christ marcher sur les eaux de la Seine, vous voyez? Parce que c'est... Ça, c'est un très très beau poème qui résume, si vous voulez, le voir l'invisible. Et enfin, ça c'est ma conclusion, ça nous rappelle qu'un christianisme sans surnaturel est radicalement infidèle à son essence. Tolkien écrit, ose écrire dans son essai sur le conte que l'évangile est un conte de fées. Il développe ça bien d'ailleurs à lire. Et Lewis a écrit un texte que j'ai apporté, que vous pourrez lire, qui s'appelle « Le mythe devenu fait » et qui précise que justement, enfin, qui réfléchit sur le mythe, qui dit qu'à Noël, le mythe est devenu fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce thème a été repris par le cardinal Schönborn, vous savez, l'auteur du catéchisme, hein, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Noël ». Je dois l'avoir, je pourrais peut-être le montrer. Noël, quand le mythe... Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Quand le mythe devient réalité. Et il reprend naturellement, effectivement, le texte de Lewis, qui commente. Mais alors lui, en mettant les points sur l'i, Noël, quand le mythe devient réalité. Et ce texte a été repris par Ratzinger dans son Jésus, dans le premier tome de Jésus. Ratzinger n'a pas lu Lewis. Si, il a lu le Scrutin, la lettre de Scrutin, parce que j'avais lu un article dans un italien autrefois où il en parlait. Mais il ne connaît pas Lewis, mais il connaît Lewis à travers Schönborn, en tout cas ce texte, et il le reprend à son compte, en disant d'ailleurs que pour lui, effectivement, le mythe, en général, pas seulement le mythe de Noël, arrive à sa vérité dans la révélation. Par exemple, dans l'évangile, par exemple, le truc classique, c'est les noces de Cana et le mythe de Dionysos. Voyez. Et ça, je crois que c'est très important pour une vie, comment dirais-je, chrétienne, qui a une certaine harmonie entre tous les éléments de cette vie. Alors, est-ce que nous croyons à des contes de fées que, parce que quelquefois, on dit, oh, ben, tout ça c'est très joli, mais enfin... D'ailleurs, c'est ce qui a expliqué une certaine dérive du christianisme, enfin d'un certain christianisme, vers uniquement une moralité excellente, d'ailleurs, le souci d'autrui, ce qui est très très bien. Personne n'a dit qu'il ne faut pas le faire, mais enfin, ça ne différencie pas le christianisme de toute une série d'autres attitudes qu'on peut avoir. Et on peut avoir le souci d'autrui, etc., sans être chrétien. Être chrétien, c'est autre chose, c'est quand même... avoir foi au Christ. Alors, je vais vous lire tout simplement pour finir la fin de ce texte de Lewis, donc le mythe devient réalité. Il ne faut pas avoir honte, dit Lewis, de l'éclat mythique dont resplendit notre théologie. Il ne faut pas qu'une fausse spiritualité empêche notre imagination d'accueillir le mythe. Ça, je trouve ça très fort, vous voyez. On peut dire... l'imagination, l'imaginaire, toutes ces histoires. Et comme on est de fil en aiguille, on va supprimer les miracles, et en supprimant les miracles, on va supprimer, si je puis dire, la résurrection. Parce que on va se retrouver avec un discours, disons, un peu fadasse. Alors, il ne faut pas qu'une fausse spiritualité empêche notre imagination d'accueillir le mythe. Si Dieu veut être mythopoétique, ce mythopoétique, c'est un adjectif que Tolkien et Lewis aimaient beaucoup. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire créateur de mythes, quoi. Mais non. Et si donc Dieu veut être créateur de mythes, refuserons-nous d'être mythopathiques? Alors lui, là, ça l'objectif que Louis invente, est-ce que nous refuserons de recevoir le mythe? Car c'est ici, dans l'incarnation, le mariage du ciel et de la terre, mythe parfait, réalité parfaite, mariage qui demande non seulement notre amour et notre obéissance, mais aussi notre émerveillement et notre joie, qui s'adresse à l'enfant et au poète, au nous, en nous, au moins autant qu'aux savants et aux philosophes. Voilà. Donc, je regrette d'avoir été un peu... Enfin, c'est un peu pudding, un peu trop de choses à la fois.
Le texte qu'Irène vient de nous lire, on va le numériser et il sera en anglais et en français sur le site de l'aumônerie.
C'est un très beau texte, c'est un texte que Tolkien, un texte de Lewis que Tolkien aimait beaucoup. Ce n'est pas le cas de tous les textes de Lewis, parce que Tolkien... Mais on y se retrouvait tout à fait... Je crois que c'est très important, c'est justement sur le théologien moderne qui dit... Enfin, c'est à lire, pas la peine que je me fasse une paraphrase.
On est un petit peu en retard, est-ce qu'il y a une question? Pas la rater. La question.
Oui. J'avais pensé en fait quand vous avez là évoqué l'importance de l'imagination dans l'éducation. En fait, je pense pas mal d'entre nous ont eu de la chance justement de pouvoir développer cette activité de l'imagination. Et j'aimerais vous demander concrètement, alors que voilà, le monde est saturé d'images, comment fait-on quand on a des enfants ou des élèves à éduquer, à instruire, parce qu'on ne peut pas, enfin, c'est bien d'instaurer des limitations, mais on ne peut pas non plus les mettre dans une salle, les priver d'images, leur donner à la place l'énorme volume de l'Iliade, enfin, concrètement...
raconter des histoires, de même c'est très important que les parents, quand on a des enfants très jeunes, qu'on leur raconte des histoires. Une chose que les Anglais faisaient beaucoup, et je pense que ça se fait peut-être aussi en France, mais c'est de lire aussi. Le fait que vous entendez vos parents vous lire des histoires ou vous raconter des histoires s'ils le peuvent, ça c'est très important. Et pourquoi on ne raconterait pas des histoires à ses élèves si on en a? Je ne dis pas qu'on ne fasse que ça. C'est quand même un moyen tout à fait assez simple de faire passer des choses.
En tout cas, je trouve que vous nous avez bien fait comprendre que, contrairement à ce que l'étymologie suggère, l'image ne nourrit pas l'imagination, l'image au sens du JPEG, mais l'étouffe. Ce qui nourrit l'imagination, ce sont les mots.
Oui, ce sont les textes.
Ça, je pense, c'est la remarque, les textes en tout cas, oui, justement, les mots qui composent les textes.
Ou bien les mots.
Ça, je pense que c'est très important. Enfin, ça,
Ou bien les mots qu'on trouve soi-même pour raconter une histoire. Après tout, on peut raconter, vous savez, je parlais de l'Iliade et de l'Odyssée, vous pouvez les raconter. Ça peut être passionnant. Mais regardez par exemple ce que Jackson, qui a fait les films, a fait du Hobbit, par exemple. D'abord, il y en a. Tirer. Et puis, on fait d'énormes bagarres, c'est formidable. On se tape sur le crâne pendant une heure, et après. c'est un divertissement, les gens. C'est amusant, c'est éventuellement. Et encore, c'est un peu long dans ce cas-là. Non, mais je pense que savoir raconter. C'est un art, d'ailleurs, c'est pas facile, parce que si on essaye de raconter une histoire, il faut arriver à simplifier, à communiquer, à évoquer, c'est pas commode. Ça devrait être un art, ça devrait être enseigné aux futurs enseignants. Autrefois, dans l'école normale des temps anciens, avant mon temps, donc ça c'est vous dire, etc., tant ma mère, qui avait été une très brillante sévrière aussi, on faisait venir des comédiens pour apprendre aux élèves à articuler, à parler, à présenter, etc. D'ailleurs, il y a toujours une salle du SAN, je crois, dans... Eh bien, je crois que c'est important. Je ne sais pas si ces comédiens apprenez aussi à raconter des histoires, mais ça fait partie, vous voyez. D'accord. Mais je sais, parce que essayer de raconter, par exemple, j'ai vaguement essayé de raconter le fait, le prince Caspien, la promenade de Lucie dans la forêt, mais c'est tout. Rien qu'à expliquer ça, ça prend du temps. Raconter prend du temps. Ça a l'air idiot, hein, de dire ça. Mais ça prend plus de temps que faire lire, que lire simplement un texte. Mais ça permet d'évoquer, ça permet de... Mais si c'est bien fait, pas toujours bien fait.
Merci beaucoup, Graine. On vous écouterait pendant des heures, mais c'est peut-être un peu tard. Merci infiniment.